Puis l'archevêque oignit Philippe en le touchant au sommet de la tête, à la poitrine, entre les épaules et aux aisselles. Adam Héron rattacha les annelets et les agrapins qui fermaient les tuniques. La chemise du roi serait plus tard brûlée, parce qu'elle avait été effleurée de la sainte onction. Le roi fut alors revêtu des vêtements pris sur l'autel. D'abord la cotte de satin vermeil brodée de fils d'argent, puis la tunique de satin bleu, bordée de perles et semée de fleurs de lys d'or, et par-dessus la dalmatique de semblable tissu, et par-dessus encore le soc, grand manteau carré agrafé sur l'épaule droite par une fibule d'or. Philippe sentait progressivement ses épaules s'apesantir. L'archevêque accomplit l'onction des mains, glissa au doigt de Philippe l'anneau royal, lui mit le lourd sceptre d'or en la main droite, la main de justice en la main gauche. Après une génuflexion devant le tabernacle, le prélat enfin souleva la couronne, tandis que le grand chambellan commençait l'appel des pères présents. « Magnifique et puissant Seigneur, le comte !» À cet instant précis, une voix haute, impérieuse, s'éleva dans la nef. « Arrête, évêque ! Ne couronne point cet usurpateur ! C'est la fille de Saint-Louis qui te le commande !» Un vaste remous parcourut l'assistance. Toutes les têtes se tournèrent vers le point où l'on avait crié. Sur l'estrade et parmi les officiants s'échangeaient des regards anxieux. Les rangs de la foule s'écartèrent. Entourée de quelques seigneurs, une femme de grande taille, belle encore de visage, le menton ferme, les yeux clairs et coléreux, l'étroit diadème et le voile de veuve posés sur une masse de cheveux presque blancs, marchait vers le chœur. Sur son passage, on chuchotait « C'est la duchesse Agnès, c'est elle !» On tendait le cou pour la voir. On s'étonnait qu'elle eût gardé si belle prestance et pas si ferme. Parce qu'elle était la fille de Saint-Louis, l'image qu'on se faisait d'elle appartenait au lointain des âges. On la croyait une ancêtre, une ombre toute cassée dans un château de Bourgogne. Soudain, elle surgissait telle qu'elle était réellement, une femme de 50 ans encore pleine de vie et d'autorité. « Arrête, archevêque !» répéta-t-elle quand elle ne fut plus qu'à quelques pas de l'autel. « Et vous tous écoutez !» « Lisez, Mélo !» ajouta-t-elle pour son conseiller qui l'accompagnait. Guillaume de Mélo déplia un parchemin et lut. « Nous, très noble dame Agnès de France, duchesse de Bourgogne, fille de notre sire le roi Louis le Saint, en notre nom et celui de notre fils, très noble et puissant duc Eudes, nous adressons à vous, barons et seigneurs ici présents ou au dehors dans le royaume, pour faire défense que l'on reconnaisse roi le comte de Poitiers, qui n'est point héritier légitime de la couronne, et protester qu'on diffère le sacre, jusqu'à temps qu'aient été reconnus les droits de Madame Jeanne de France et de Navarre, fille et héritière du défunt roi et de notre fille. » L'angoisse augmentait sur l'estrade, et l'on commençait à distinguer de mauvais murmures dans le fond de l'église. La foule se tassait. L'archevêque semblait embarrassé de la couronne, ne sachant s'il devait la reposer sur l'autel ou poursuivre. Philippe restait immobile, tête nue, impuissant, alourdi de 40 livres d'or et de brocart, et les mains encombrées de la puissance et de la justice. Jamais il ne s'était senti aussi démuni, aussi menacé, aussi seul. Un gantelet de fer l'étreignait au creux de la poitrine. Son calme était effrayant. Accomplir un seul geste, ouvrir la bouche en cet instant, entamer une controverse, c'était courir au tumulte, et sans doute à l'échec. Il demeura figé dans la gangue de ses ornements, comme si la bataille se passait au-dessous de lui. Il entendait les pères ecclésiastiques chuchoter « Que devons-nous faire ?» Le prélat de Langres, qui n'oubliait pas la vexation essuyée au lever, était d'avis d'arrêter la cérémonie. « Retirons-nous et débattons !» proposait un autre. « Nous ne pouvons, le roi est déjà loin du Seigneur. Il est roi, couronnez-le » répliquait l'évêque de Beauvais. La comtesse Mao se penchait vers sa fille Jeanne et lui murmurait « La gueuse !» Elle mérite d'en crever. » De ses paupières de tortue, le connétable fit signe à Adam Héron de reprendre l'appel. « Magnifique et puissant seigneur, le comte de Valois, père du roi !» prononça le chambellan. Toute l'attention alors reflua vers l'oncle du roi. S'il répondait à l'appel, Philippe avait gagné, car c'était la caution des pères laïcs du pouvoir réel que Valois apportait. S'il refusait, Philippe avait perdu.